Radio Kapi. Oh, Kapi. À la une de cette édition, la foudre a tué 6 personnes dans le territoire de Kazumba. Le drame a eu lieu au cours d'une pluie torrentielle dans la nuit de dimanche à ce lundi. Dans ce journal, nous appellerons André Kambala Mujanaï pour les détails. Journée mondiale de l'eau au Sud Kivu, cette journée est célébrée sous le thème « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». La célébration est organisée ce lundi 22 mars par le ministère provincial du Plan à travers le comité provincial d'action de l'eau à l'hôtel Elisabeth de Bukavu. Notre invité du jour est M. Chimboj Dona, rapporteur à l'Assemblée provinciale de Lualaba. Il explique comment le gouvernement provincial de Lualaba est arrivé à réaliser plusieurs projets de développement sur fonds propres et attend réaliser d'autres défis de réhabilitation des routes dans les prochains jours. Bonjour et bienvenue à ce midi. Au Kasaï central, 6 personnes ont été tuées par la foudre cette nuit. Le drame a eu lieu au cours d'une pluie torrentielle. Les victimes se comptent dans 2 familles séparées résidant dans les territoires de Kazumba. Ce matin, les troubles ont opposé les membres d'une famille d'une victime, mais la police a rapidement calmé le jeu. Des détails avec André Kambala Mujanaï.
Vers 1h du matin, alors qu'il pleuvait, une mère et ses 2 enfants qui dormaient ont entendu un coup de tonnerre. Soudain, la fumée a envahi cette maison résidentielle de la cité de Kazumba. Selon des témoins qui rapportent les propos de l'aîné de la famille, ce dernier a dû remarquer que sa mère s'agitait sérieusement. Il est allé alerter les voisins. C'est à l'arrivée de ceux-ci qu'ils constateront que la mère venait de rendre l'âme. Nos sources constatent que c'est depuis plus d'une année que le mari de la victime serait allé se débrouiller en Angola. Ce matin, la famille de l'infortuné et celle de son époux sont entrés en incompréhension, mais la tension a été rapidement calmée par la police. À 7 km de là, c'est au village Kakamba, dans le secteur de Miao, que 5 personnes sont décédées la même nuit. Une dame et ses 4 enfants ont été foudroyés, presque dans des circonstances semblables. Là aussi, la société civile indique que le responsable de la famille était absent de la maison. Cette double tragédie a créé la psychose partout. Et pour prévenir, la police a envoyé ses éléments pour maintenir l'ordre, alors que les services de l'ordre mène des enquêtes sur les causes de ces décès. De Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
19 civils tués, dont 3 enfants et 4 femmes, ainsi que 2 militaires FARDC. C'est entre autres éléments sur l'identité des victimes de l'accident de circulation enregistré vendredi dernier au parking Bon Voyage à Kiissi, en territoire de Nyiragongo. Parmi ces victimes, 3 corps ne sont pas encore identifiés, alors que d'autres ont été enterrés après cérémonie d'hommage organisée ce dimanche par le gouvernement provincial du Nord Kivu à Goma. Sifa Maguru.
Les 2 victimes militaires sont un adjudant-chef, chauffeur mécanicien, ainsi qu'un premier sergent, pilote char et mécanicien. Tous 2 ont été enterrés à Goma après une cérémonie officielle organisée par la garde républicaine. Les autres victimes ont également été enterrées à Goma, Kibumba et Bukavu. Dans un communiqué officiel rendu public ce dimanche 21 mars, le gouverneur du Nord Kivu appelle toutes les familles de Goma, Nyiragongo et ses environs qui n'ont pas retrouvé les leurs après cet accident de passer à la morgue de l'hôpital provincial pour une éventuelle identification. Au plus tard le 24 mars, les services de protection civile procédera à leur inhumation pour des raisons de santé publique, précise le communiqué. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
En territoire de Masisi, les agglomérations de Mpati et Busumba sont entièrement sous contrôle des forces armées congolaises. C'est dans le groupement de Bachali Mokoto. Selon le porte-parole du secteur Sokola 2, cette reconquête est consécutive aux opérations menées par l'armée une semaine durant contre la coalition de Nyatura et APCLC de Janvier Kalahiri qui occupait la zone depuis plus de 2 ans. Il ajoute que l'armée va installer ses positions durablement dans ces entités pour assurer la sécurité des habitants. Major Njike Kaiko au micro de Bernard Nyangi.
C'est depuis le mardi de la semaine passée que les forces armées de la République démocratique du Congo ont déclenché des opérations de grande envergure dans cette zone, parce que vous êtes sans oublier que Busumba, Mpati, Kivu, et ce sont des très grandes agglomérations considérées comme les quartiers généraux de la coalition CMC Nyatura de Domi et de Jean-Marie ainsi que des APCLS. Et au regard de la souffrance qui prouvait notre population dans cette zone, elle ne va plus payer la taxe appelée Ndegera Buzima ou Lala Salama. Il y a eu plusieurs éditions, il y a aussi des armes AK qu'on nous a amenées par ces détenteurs illégaux d'armes à feu. Actuellement, l'ennemi n'a plus une position. Le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Soukouadé, le général des brigades Moulumbu Evariste, est descendu lui-même pour rassurer la population que désormais, il n'est plus question de conquérir et de quitter. Nous sommes en train de consolider toutes ces positions et notre population ne sera plus jamais assujettie à ces taxes auxquelles j'ai fait allusion.
Les autorités coutumières locales de Bachali Mokoto, qui se réjouissent des résultats de cette opération, plaident toujours pour le renforcement de la présence de l'armée dans cette zone, qui selon elles a encore plusieurs villages pouvant servir des bastions des rebelles. La force alternative pour le renouveau de la Tchop, FART Asbel, appelle à l'unité et à la réconciliation des filles et fils de cette province. Dans une déclaration faite à la presse ce dimanche 21 mars, ici à Kinshasa, en marge de la cérémonie d'échange des vœux, Christia Ombilingo, coordonnateur de cet ASBL, demande à tous les ressortissants de la Tchopo d'enterrer la hache de guerre afin de développer leur province. Christian Obilingo le dit à Paul Matendo.
Comme vous le savez, la Tchopo a connu beaucoup de problèmes entre ses propres fils. Il y a beaucoup de conflits parmi nous, il y a beaucoup de problèmes qui font que notre province n'avance pas, notre province recule, notre province est nivelée vers le bas, notre province ne sort pas du lot, notre province n'atteint pas, en fait, la place qui doit être la sienne dans le concert de notre nation. Vous savez que la Tchopo a été, en fait, la Grande Orientale, il y a quelques années, a été le troisième pôle économique de notre pays. Mais aujourd'hui, par rapport à tous les problèmes, à toutes les difficultés, à toutes les situations confuses qui se sont passées chez nous, nous sommes vraiment derrière, nous avons reculé. Voilà pourquoi nous sommes en train de mobiliser les troupes, de nous réconcilier entre nous. Nous sommes appelés de mobiliser nos frères et sœurs afin que dans l'unité, nous puissions voir comment reconstruire notre province, comment entrevoir le développement de notre province.
Dans la province du Maniema, les activistes membres des organisations militant pour la promotion des droits de l'homme et les journalistes ont été formés pendant 3 jours sur les droits de l'homme, protection et la sécurité des défenseurs des droits humains. Raphaël Upelele Lokenga, président de l'association de promotion et de protection des droits de l'homme, acquise à Binadamo Maniema, a demandé aux bénéficiaires de cette formation de bien capitaliser les notions apprises pour pouvoir bénéficier de la conférence des dirigeants et dirigés. Raphaël Upelele au micro de Florence Kizalunga.
Après cette session de formation, nous sommes regardés, les notions apprises au cours de ces assises ne vont pas rester dans les tiroirs. Elles vont être capitalisées pour que notre métier puisse bénéficier de la confiance, non seulement de nos partenaires, notamment les dirigeants, mais aussi de la population pour laquelle nous œuvrons. Alors, tenons à vous rappeler que le respect des normes éthiques et déontologiques sont très nécessaires pour notre travail. Et ce sont ces valeurs qui vont nous empêcher des actions éventuelles en justice ou des discrédits. À la fin, nous vous recommandons d'aller restituer les notions apprises dans vos structures respectives de provenance et aussi à d'autres couches de population, à d'autres amis qui, d'une manière ou d'une autre, sont aussi des défenseurs des droits de l'homme. Nous vous remercions de vos recommandations, dont celle de former une synergie. Voilà pourquoi nous vous promettons, dès la semaine prochaine déjà, nous allons constituer un cadre de concertation pour que nous puissions commencer à réfléchir sur les différentes recommandations formulées à ces assises.
Je le disais en titre, Journée mondiale de l'eau au Sud Kivu. Cette journée est célébrée sous le thème « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». La célébration est organisée ce lundi 22 mars par le ministère provincial du Plan à travers le comité provincial d'action de l'eau à l'hôtel Elisabeth de Bukavu. Pas plus de la moitié de la population du Sud Kivu est servie en eau. C'est ce qu'affirme l'ingénieur Jean Loutota, secrétaire exécutif du comité provincial d'action de l'eau dans le Sud Kivu. Il est au micro de Rachel Kiesembangu.
Dire exactement le taux d'accès, c'est difficile, puisqu'il faut qu'il y ait des enquêtes, savoir un effectif au niveau de nos états civils, on ne connaît pas le nombre exact de la population que nous avons, ce qui fait que, bon, ça avoisine en tout cas entre 40 et 45% de la population qui a accès à l'eau dans notre province, dans la province du Sud Kivu. On peut parler des infrastructures en rapport avec les taux d'accès ou bien le taux de desserte, mais ce n'est pas encore fameux, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, hein, puisque bon nombre de la population, presque la moitié de la population n'a pas encore accès accès à l'eau dans notre province du Sud Kivu. C'est depuis une décennie qu'on avait commencé à réfléchir sur les textes réglementaires, puisque nous, dans la République démocratique du Congo, on utilisait des textes qui dataient des années 50, mais les efforts sont tels que nous avons maintenant une loi relative à l'eau. Cette loi, c'est elle qui vient donner la voie à beaucoup de facilité par rapport à la gestion. Il y a aussi la politique nationale des services publics de l'eau qui est déjà validée. Donc, ce qui fait que maintenant, il reste à nous et surtout aux autorités de voir comment mettre en application ces deux textes-là.
Province de l'Équateur, à Ingendé, la jeunesse s'insurge contre les exploitants chinois qui coupent le bois dans leur territoire. Ils accusent ces industriels le non-respect de leur cahier de charge. Notamment, ils font la coupe des grumes dans le secteur de Bokatola, mais le dépotage et l'évacuation par le territoire de Bikoro, ce qui occasionne la réhabilitation des routes et du port de Bikoro, l'utilisation de la main-d'œuvre de Bikoro et d'autres avantages au détriment du territoire d'Ingendé, d'où proviennent ces bois. En réaction, les jeunes ont organisé une marche le week-end en vue d'exiger le respect des clauses du cahier de charge. L'ancien conseiller spécial du maréchal Mobutu en matière de sécurité, Honoré Nguanda, est mort ce dimanche matin à Rabat au Maroc de suite d'une maladie, selon des sources familiales. L'ambassadeur André-Alain Atundu, qui a partagé avec lui presque le même destin, évoque ses qualités intellectuelles et affirme qu'il était un homme performant dans les services de renseignement. Atundu dit « Nguanda a dit beaucoup de choses, mais il en porte beaucoup plus dans sa tombe ». L'ambassadeur André-Alain Atundu a été joint par Guy Maté.
C'était un personnage intelligent qui était un crack dans son domaine, le renseignement. Nous nous sommes rencontrés, ils ont notre destin, se sont rencontrés deux ou trois fois, toujours sur la même ligne. En 60, nous nous sommes retrouvés au petit séminaire des Bolongo. Nous partageons alors l'idéal d'être prêtre. En 67, nous nous sommes retrouvés à l'université Lovanium à la création du département de philosophie pure. Et dans la vie, nous nous sommes retrouvés dans les services de renseignement. À ce titre, nous avons eu à collaborer. Il était administrateur général adjoint pendant que moi j'étais représentant de service à Paris et à Bruxelles. Et puis, je l'ai remplacé comme administrateur adjoint avec comme administrateur général Kema. Et puis, il est revenu pour coiffer les services. Moi, j'étais responsable de service extérieur et Goga, responsable de service intérieur. Et lui, il faisait la coordination.
Actualité internationale.
Le Congo-Brazzaville a voté ce dimanche 21 mars pour le premier tour de la présidentielle. Après 36 ans de pouvoir cumulé à la tête du pays, l'indétrônable Denis Sassou Nguesso brigue un nouveau mandat de 5 ans face à lui, 6 adversaires. Dimanche soir, que l'on soit au pouvoir ou dans l'opposition, on dressait un bilan très différent de cette journée de vote. Le premier ministre malien par intérim Mokhtar Ouane s'est rendu dans la ville de Kona pour inaugurer un nouveau port de pêche ainsi qu'un nouveau camp militaire. Dans cette région centrale du Mali, régulièrement frappée par les attaques djihadistes, cette visite a pour objectif de symboliser la résistance et l'espoir.
L'invité.
Notre invité est M. Chimboche Dona, rapporteur à l'Assemblée provinciale de Lualaba. Il explique notamment que le gouvernement provincial de Lualaba est arrivé à réaliser plusieurs projets de développement sur fonds propres et attend relever d'autres défis de réhabilitation des routes dans les prochains jours. Il assure que ce nouveau vent de l'Union sacrée contribuera à renforcer cet élan de développement. Dona Chimboche s'entretient avec J.R. Lungembo.
Dona Chimboche, bonjour.
Bonjour M. J.R.
Le Lualaba, province pilote de développement, comme la désigne depuis quelques temps certains compatriotes Lualabé. Alors pourquoi cette appellation et quel est le secret?
L'appellation ne vient pas du Lualaba, l'appellation vient du reste du Congo plutôt. Et nous, on s'en réjouit, on remercie les compatriotes pour leur sens d'honnêteté. L'explication, c'est tout simplement parce que dans pratiquement tous les domaines liés au développement, le Lualaba a excellé dans la bonne gouvernance, dans les infrastructures, dans le maintien du climat de paix. Et chez nous, c'est la paix. Nous considérons comme une province pilote, ça veut dire une province modèle. Le secret, si vous voulez, notamment par un leadership éclairé.
Alors, les différents projets réalisés d'ici là ont été exécutés sous quel financement?
Le financement propre de la province, du gouvernement. L'Assemblée permet pas au gouvernement de faire n'importe quoi, de faire des folies, mais l'Assemblée l'encadre. Donc l'Assemblée et les gouvernements regardent toujours dans la même direction et nous nous sommes plus basés sur les ressources propre d'Ilo-Alaba, c'est ainsi que nous sommes en train de construire les bâtiments de l'hémicycle avec fonds propres. Et nous venons de terminer le pavillon présidentiel. Donc Félix Tshisekedi peut aller se promener au Ilo-Alaba. Il aura un cadre de travail. Nous venons de terminer les bâtiments de la Banque centrale. Avant ça, nous avons terminé de bâtir l'hôtel du gouvernement, un bâtiment à deux étages qui avait été inauguré par Caméré et Robert Roy. Donc nous faisons avec ce que nous avons, bien sûr, en faisant intervenir les entreprises minières, climat de travail.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'Ilo-Alaba se sert déjà à la source, pour ne pas parler de la retenue à la source, pour réaliser tout ça?
On aurait fait plus. On aurait fait plus si on nous permettait de faire la retenue à la source. Une entreprise minière qui est basée dans une commune, à la fin du mois, elle doit verser un pourcentage et c'est pas 10 000 dollars, hein. C'est dans les 500 000. Il y en a qui vont jusqu'à 1 million de dollars par mois. Et donc, nous faisons avec les taxes locales.
Si je comprends bien, la province a créé de nouvelles taxes. Gère bien ces taxes.
Mais ce sont les hommes qui ont changé.
Alors, ces actions réalisées dans la dynamique politique du FCC avec ces nouveaux vents de l'Union sacrée, y a-t-il risque que cet élan soit estompé?
Nous nous battons contre ça. Parce que ça soit au FCC, que ça soit à l'Union Sacrée, on travaille pour le bonheur de l'homme. Et donc, ce serait insensé que d'interrompre cet élan de développement parce que on est devenu Union Sacrée. Union Sacrée, c'est quoi? C'est tout le monde ensemble. Pour le bien de la population. L'objet de notre visite à Kinshasa, c'est pour rassurer aussi les instances nationales pour dire, nous, Assemblée provinciale d'Ilo-Alaba, n'ayez crainte de rien, nous sommes restés le même, nous regardons dans la même direction que les chefs de l'État, nous voulons bien préserver nos institutions comme d'habitude, nous sommes la province qui n'a jamais connu un remaniement ministériel, jamais. Donc nous sommes...
Aucune motion de défiance.
Aucune. Nous regardons toujours dans la même direction, nous sommes entre nous. Congolais, nous sommes devenus Union Sacrée, ce n'est pas par flatterie ou par, roublardise, non. Nous sommes sincères, puisque l'objectif c'est le bien du peuple.
Alors parlons avant d'arriver aux défis qui restent à relever, parce que vous venez de citer le gouverneur, où se trouve le gouverneur Richard Mouyej? Si ce n'est pas un secret, quel est son état de santé?
Son état de santé, je commence par là, il se porte mieux, de mieux en mieux. Là, quand je venais, moi je suis arrivé samedi, j'ai laissé déjà des préparatifs pour son accueil et il y a de l'effervescence partout. Mouyej est parti malade de Kinshasa. Alors on l'avait évacué en Afrique du Sud dans un état désespéré. Alors il est en train de venir, en tout cas je ne connais pas la date mais c'est imminent puisque au Ilo-Alaba on se prépare déjà pour la...
Quels sont les défis qui restent à relever?
Il y en a encore beaucoup. Nous ne croyons pas avoir tout fait. Et le plus grand défi pour nous, les instances nationales nous accordent du crédit à notre démarche, c'est-à-dire celle de laisser les institutions continuer, le plus grand défi pour moi, c'est d'abord la route.
Donat Chimbo,
vous êtes le bienvenu là-bas.
Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Et je vous en prie, mon frère.
Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.